à votre santé. 155e émission de l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les auditrices, auditeurs de RVM. Comme annoncé à la fin de notre dernière émission, nous poursuivons notre conversation avec nos invités sur l'accompagnement de la santé mentale. Donc avec
André Barnou
et Laurent Sanchez
et Christian Max.
Parce que nous avons abordé en fin de dernière émission une évolution qui venait un peu en contradiction avec tout ce qui a été construit au fil des années et que André avait évoqué, cette cohérence avec l'hôpital public et d'une manière générale sur le territoire. Tu peux nous en reparler, André ?
Oui, il y a eu à partir, on peut dire, des années 60, la construction du secteur de psychiatrie, ce qui avait pour objectif de rendre la psychiatrie le plus proche de chaque habitant. Mmh. Et c'est mouvement-là que le mouvement de psychothérapie institutionnelle qui a fonctionné à la Nouvelle-Forge s'est investi. Et je pense qu'actuellement, c'est encore quelque chose qui est porteur de la qualité du travail dans les établissements. Quoi.
Excuse-moi, j'ai une petite question. Donc, ce qu'on a à Crépy-en-Valois comme établissement, il y a le CMPP, mais il y a aussi un CMP, c'est ça ?
Il y a aussi un CMP.
Tu peux nous expliquer le CMP. Ça en fait partie de tout ce dont tu parles.
Ça fait partie du dispositif. Le CMPP est plus orienté sur la prise en charge des enfants jusqu'à normalement 16 ans, mais souvent ça va jusqu'à 18, parfois, par exception. Et le CMP est ouvert à l'initiative de l'hôpital. Donc lui, il a un spectre encore beaucoup plus large. Et il est en lien direct avec l'hôpital psychiatrique.
D'accord.
Les deux structures se connaissent et ont des liens ensemble aussi. Mmh. Après, ce qui existe sur Crépy, il y a l'établissement de Crolly, qui est une prise en charge d'enfants à la journée. Beaucoup d'enfants dits autistes, etc., qui sont pris en charge dans ce cadre-là. Voilà.
Très bien.
Ce qui existe. Moi, je pense que la fondation de Crolly et du CMPP, parce qu'ils ont ouvert ensemble, ça a été dans ce mouvement que je vous décrivais tout à l'heure.
D'accord. Alors, Laurent, là-dessus, peux préciser
Puisque la question, c'est la présence d'une nouvelle forge sur Crépy-en-Valois, il y a aussi donc, les CESAD.
Les CESAD aussi, oui.
Des services ambulatoires.
Alors, c'est quoi les
CESAD, S-E-2-S-A-D, ce sont des services ambulatoires avec les mêmes équipes.
Ah, d'accord.
Oui. Vous allez avoir des psychologues, vous allez avoir des éducateurs qui se portent, j'en parlais à l'émission précédente, qui se portent vers le public sans avoir la nécessité dans un premier temps qu'ils viennent en établissement. On continue à les porter sur leur lieu de scolarisation, leur lieu de socialisation, le lieu où ils font du sport. Et à un moment, s'il y a besoin de faire des coupures ou de récupérer, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut se tricoter un petit peu plus finement qu'il y a quelques années, avec des allers et retours. Mais il y a aussi une classe... comme par hasard, j'ai oublié l'école, je ne sais plus si c'est Vassal. Il y a une petite unité pour enfants autistes. Voilà, ça fait partie aussi des choses. On en parlera parce que le mot à la mode, c'est inclusion. Et je pense que dans les évolutions, il va falloir qu'on en parle. Parce que je caricature un petit peu le propos, mais en gros, les établissements, c'est pas beau. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est super. Inclusion, on en parle à chaque campagne électorale, par exemple. Encore faudrait-il donner les moyens pour cette inclusion. Puisque je rappelle que pour inclure des jeunes qui viennent du milieu normal, ils ont donc été exclus un moment du milieu normal pour pouvoir y retourner. Donc le fait qu'il y ait ce va-et-vient ne me gêne pas. Simplement, l'inclusion, ça ne doit pas tourner le dos à la structure, aux structures qui sont présentes sur le terrain. Hein, ça se prépare.
D'accord. Ça fait partie d'une stratégie allant vers l'autonomie. Christian, tu avais envie de nous dire quelque chose.
Oui, alors moi, j'ai une expérience petite là-dessus parce que dans ma famille proche, j'ai des enseignants qui accueillent ce genre de public dans leur classe. Or, ils n'ont aucune formation. Ils ne savent pas quoi en faire.
Alors, tu me rappelles quelque chose. Donc, je vais vous demander quel est le rapport avec ce qu'on a à Crépy-en-Valois. Je ne sais pas si elle s'appelle toujours comme ça, au Collège La Fontaine, la section d'éducation spécialisée. Ça s'appelle toujours comme ça ? Parce que alors, les noms changent. Tu
ça
sais
fait
plus.
10 ans que je suis parti, alors je
ne
sais pas.
Tu ne sais plus. Et donc, la SES, on disait la SES, ouais. Où il y avait un apprentissage d'horticulture, de
c'est
menuiserie.
Les cas dont je parle, là, oui. Dont mes enfants m'ont parlé, c'est pire que ça. Hein.
C'est autre chose.
C'est pire.
C'est
autre
chose.
Ce sont des enfants autistes dans des classes à 30.
D'accord.
Alors,
ah
tu,
oui, oui.
Vous voyez donc un peu ce que ça peut donner. Hein.
C'est autre chose. Ouais. Eh bien, donc... C'était une autre époque, c'était les années 80. Moi, j'étais professeure au Collège La Fontaine. Et à un moment donné, une part du projet des collègues de l'équipe de SES, c'était de faire passer... Alors, comment dire ? Moi, je dis faire passer donc certains de leurs élèves dans des classes, dans certains cours, là où ils avaient envie, où ils se sentaient bien. Donc moi, je me souviens que j'en avais accueilli. Moi, personnellement, je me souviens de j'étais professeur de français. Effectivement, on les voyait, ils étaient un peu... à la fois content et un peu stressé d'être dans la classe. Mais ça a été un projet sur plusieurs mois où on était en concertation avec nos collègues. Voilà, parce que... Et ce n'était que des enseignants volontaires qui accueillaient dans leur classe.
Alors, l'évolution actuelle, hein, dont je peux témoigner en 10 ans à Nouvelle-Forge, le nombre d'enfants, moi je travaille avec des personnes qui ont entre 6 ans et 16 ans, le nombre de jeunes qui retournent à l'école est en constante augmentation. Mais il a fallu faire ce travail de lien, de partenariat, et très clairement... Hein, au niveau national, on n'explique que l'éducation nationale. La réalité, c'est que c'est un travail avec un éducateur, une éducatrice et un enseignant tout à fait... qui a envie vraiment de tenter d'expérience. Et dès que ce lien est fait, ça facilite grandement les choses. Si on n'a pas de proviseurs qui sont vraiment... qui jouent le jeu pour ça, c'est extrêmement compliqué. Malgré tout, l'évolution est la suivante. Hein, on a beaucoup plus d'enfants qui vont à l'école, qui à terme quitteront un établissement comme le mien pour être suivis par ce dont on parlait tout à l'heure, le CESAD, c'est-à-dire une structure un peu plus ambulatoire, avec des éduques qui se porteront déjà pour des réunions tout au fil de la scolarité, et puis s'il devait y avoir un petit coup dur, être capable d'intervenir, de discuter, de faire un retrait momentané, parce qu'il faut avoir le droit de faire du répit. De temps en temps, c'est pas un gros mot. Et par contre, sur la question de l'inclusion, je crois que le statut des personnes accompagnantes au collège ou au lycée a été discuté à l'Assemblée nationale, il me semble, il y a 2 ans en arrière, sur la revalorisation. Il me semble de tête que ces personnes-là sont généralement en CDD de septembre à juin. Et pour un salaire d'environ 980 euros par mois, puisqu'en fait, on va leur compter leurs 24 heures. Donc, un métier passionnant comme celui de l'accompagnement de la scolarité d'une personne au collège ou au lycée, ça va se traduire soit par l'extrême précarité de la personne qui accompagne. Je reviens sur la question des salaires. Comment être bien pour les autres qu'on n'est pas bien soi-même. Ça pose quand même des questions de fond sur le discours inclusif et les moyens qu'on se donne. La santé mentale n'est pas le même, n'est pas le seul dans ce cas-là. Mais là, il y a quand même une espèce de double propos. On sort des mots comme ça toute la journée, inclusion. Il n'y a pas de problème, on est là pour. Hein. Par contre, on ne travaille jamais seul, toujours en partenariat avec des personnes. Encore faut-il avoir les moyens. Et les expériences de classe qu'il y a à Crépy-en-Valois, justement, nous, on est souvent confrontés à ça, parce que ce qui serait peut-être souhaitable, c'est d'avoir une pièce supplémentaire dans une école publique, de manière à ce que des équipes d'éducateurs, d'éducatrices se portent sur place pour, comme tu le disais, en fonction de la concentration de la personne, à pouvoir s'extraire, revenir et qu'on soit pas bloqué par des problèmes de transport. Là, aujourd'hui, il faudrait pousser les murs et je crois que... c'est pas à moi de dicter les normes de construction des écoles ni les ouvertures de classe, mais on est aussi dans une contradiction en termes de moyens.
Oui, tout à fait. Oui, alors tu voulais prolonger ton témoignage, Christian.
Oui, parce que bon, moi, ce que me disent mes enfants, c'est qu'ils n'ont reçu aucune formation. Ils ont eu un stage de 3 jours pour leur expliquer comment on gère des élèves autistes. C'est se foutre du monde, c'est se foutre des enfants surtout. C'est eux qui en prennent plein la figure dans cette histoire.
Parce qu'ils sont dans le groupe classe ils sont avec les autres enfants.
Ils sont dans le groupe classe. Des fois, ils font une crise. Que fait le prof? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il en a quand même 29 derrière aussi. Donc nous, enfin, ce que m'ont dit mes enfants, moi, c'est qu'ils ont l'impression que ces mômes, ben, on les balance dans leur classe comme ça parce que ça coûte moins cher que de les mettre dans des institutions spécialisées.
C'est ce qu'ils ressentent.
C'est ce qu'eux ressentent. Oui, je ne dis pas que c'est ça.
Est-ce qu'ils ont un accompagnant, comme tu disais, quelqu'un qui les accompagne
Des fois, mais pas toujours.
Voilà. Ah bah voilà.
Ça dépend des troubles après. En trouble du comportement, on n'a pas d'accompagnant systématique. Par contre, on a réussi à caler le fait que la scolarisation, c'est peut-être une matinée, puis une après-midi dans la semaine. Pour commencer à retravailler les rythmes, à solder les difficultés qu'on a pu avoir avec le milieu scolaire, qui lui-même nous a renvoyé, en tout cas c'est vécu comme ça. Donc il y a des choses à recoudre, et puis je rappelle que de toute façon il y a toujours des enseignants de l'éducation nationale qui sont dans nos établissements, mais après le but, comme pour tout le monde de toute façon, c'est les copains qu'on a à la cité ou dans le pavillon, on ne va pas dans la même école. Et on n'a pas toujours les mêmes rythmes scolaires, puisque nous, une partie des vacances, on continue à travailler. Donc voilà, c'est...
Il y a beaucoup de choses à gérer qui ne sont pas simples.
Et puis, de toute façon, les gamins veulent vivre au même rythme que leurs frères et sœurs et leurs copains. Donc favoriser ce retour, il n'y a strictement aucun problème. Il faut qu'on le fasse avec les moyens adéquats et que ce ne soit pas juste une marque publicitaire.
C'est là qu'est le problème, justement.
Alors, est-ce que c'est le gros mot, les moyens? Parce que, à chaque fois qu'on parle moyens, hop, on nous balance une réforme ou une concertation ou je ne sais pas quoi, comme si il y avait contradiction entre les moyens. Moyens, nous, on pense souvent aux moyens humains, aux moyens financiers, etc. Et, comment dire, la qualité de ce qu'on fait.
Je ne sais pas si... Enfin, la question des moyens se pose, effectivement. On ne peut pas l'écarter. Mais je veux dire, l'éducation nationale a un objectif. Et la question des gens qui travaillent en santé mentale, ils ont un objectif. Les deux, parfois, quand on les met ensemble, il y a une zone de friction. Et par contre, on voit que c'est très important pour les gens qui travaillent en santé mentale de pouvoir remettre le pied à l'étrier pour des enfants, pour qu'ils prennent leur place dans la société. Donc c'est aussi un des objectifs, quoi. Alors effectivement, ce qui n'est pas traité, c'est de façon constructive, c'est cette zone de friction. Moi, je me souviens d'ouverture de classe à l'extérieur qui ne se faisait pas du tout du temps de l'IMP à Senlis et que M. Torubia, le fondateur, avait imposé. Il avait organisé un système à l'époque où certains des enfants qui étaient pris en charge à l'IMP allaient pour des temps de classe dans des écoles en ville et on travaillait avec les instituteurs. Ce qui était entendu à l'époque, c'est que les enfants qui allaient, c'était vraiment un mouvement. C'était très important de bien visualiser ce mouvement qui quittait l'établissement où on est stigmatisé par rapport à son symptôme pour aller dans un endroit où, déstigmatisant, où on allait pouvoir s'inscrire avec d'autres. Par contre, la possibilité était toujours ouverte pour faire l'inverse si un enfant n'était pas en capacité. C'est-à-dire que, je dirais globalement, comme ça, pour faire vite, sa folie l'emportait, il y avait retour immédiat sur l'établissement. C'est-à-dire qu'il y avait un effet d'aller et retour qui permettait que cette zone de friction entre les deux objectifs qui sont un peu différents puisse se travailler. Actuellement, on voit bien que c'est cette zone qui ne se traite pas. Et on la met que, si on la met que sur la question des moyens, on se trompe, mais en même temps, les moyens, ils n'y sont pas actuellement. Ça, c'est sûr.
Juste une parenthèse, et puis Laurent, il va nous parler un peu d'aujourd'hui. Tu as parlé de friction entre un petit oui. peu les enseignants, les psychiatres. Tout à l'heure, Christian, en évoquant son témoignage, disait que bon, il y avait un sentiment de presque de rejet de l'expérience qui était faite dans la
pas rejet. Je dirais pas de rejet, je dirais de mal-être.
De mal-être, oui. Eh bien, moi, je dis, là, ça souligne encore une fois le manque dans la formation des enseignants. On est formé à une discipline et absolument pas à être avec des enfants. Et donc, là, c'est la béance. Hein. Donc, voilà, on essaye de faire des pratiques qui seront innovantes, qui vont vers la construction des enfants. Et en fait, on ne repense pas du tout aux formations de base. Alors, on avait dit qu'on allait parler aussi d'aujourd'hui. Et donc, Laurent, tu avais un constat à faire.
Bah, on parle d'évolution de toute façon. Je crois que c'est un des sujets qu'on a évoqué depuis le départ. Et j'espère que tout le monde est convaincu que l'évolution, c'est absolument pas un gros mot. C'est pas nécessairement négatif, puisque c'est le public qui nous fait bouger là-dessus. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais lorsqu'on parle de moyens, je vais prendre l'exemple actuel. Hein. Nous, on est en train de passer au paiement à l'acte. Je crois que j'en avais un tout petit peu parlé lors de l'émission précédente. Donc voilà, il va falloir qu'après tel accompagnement, tel groupe, etc., je sois en capacité de définir l'ensemble des actes que j'aurai fournis pendant 1h30. Je ne sais pas quand je vais le faire. Mais ceci va donc en fait conditionner l'enveloppe attribuée à mon établissement.
L'enveloppe financière, le budget.
Bien sûr. L'enveloppe qui sera attribuée à mon établissement. Alors, au passage, y a des choses qui n'existent plus. Hein. Un enfant est en crise profonde, on décide de le sortir de l'établissement pour aller faire un tour dans un champ auprès d'une mare ou un truc comme ça pour pouvoir vraiment apaiser, discuter dans un autre lieu. Si je fais ça, je ne suis plus en position d'encadrement. Donc, je souhaite bon courage à mes financeurs pour repérer mon travail. Bah, peut-être que je ne bosse plus, en fait. Donc, voilà. L'autre point... C'est que, j'en avais parlé un tout petit peu, c'est que les établissements sont un petit peu mal vus au profit du discours tout inclusif, pas de problème. On a déjà vu que c'était un petit peu limité parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas toujours la souplesse pour pouvoir garantir à l'enfant qu'il soit bien et qu'on puisse être à son écoute sur le lieu où il continuera sa scolarité. Nous, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on augmente ce qu'on appelle la file active. Alors, sur des groupes qui sont conçus pour recevoir à peu près 8 personnes, eh bien, on se retrouve avec 12 enfants. Pourquoi ? Parce que partiellement, comme on disait, partiellement, ils sont en scolarité ou à l'extérieur.
Oui.
Donc, physiquement, on aura peut-être toujours 8 enfants. Par contre, pour les professionnels qui font le suivi, on a bien augmenté d'un tiers les temps de réunion, les temps de rendez-vous, les familles, etc. Ça, c'est encore du temps non disponible auprès des mêmes enfants qu'on est censé accompagner de plus en plus partiellement. Donc, on tricote de la spécificité, on tricote du personnel, il n'y a pas de problème. Par contre, là, les équipes qui sont toujours à moyen constant, très vite, ne vont pas pouvoir honorer cette espèce de contrat qui est passé avec l'enfant, avec les familles.
Oui. Malheureusement, c'est ce qu'on voit partout, la prise en charge de plus en plus de personnes dans le secteur santé. Et là, c'est le secteur médico-social, le secteur éducatif, etc. Eh bien, écoutez, chers auditrices, auditeurs, nous arrivons à la fin de notre conversation avec nos deux invités du secteur médico-social. Je crois que nous explorerons encore à d'autres occasions cette question parce que vraiment, c'était très riche. Et j'espère que ça vous a ouvert, à vous aussi, un univers de la connaissance de la santé mentale. Vous pouvez nous écouter le samedi à 10h30, le mardi 13h, jeudi 16h, et bien entendu en podcast. Au revoir.
Au revoir.